D'accord, c'est parti. Alors, on va commencer le cours. On commence à la page 112, le point 10.5. Virginie, voudrais-tu lire?
On commence.
Bhagavate
Om namo
Vasudevaya.
Bhagavate
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo
Om namo
Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors voilà. Alors on commence page 112.10.5, s'il vous plaît, Virginie.
10.5. Leurs dires et leurs écrits sont l'expression concrète de ce que nous entendons par la tentation de la parole. Tout ce qui ne se rapporte pas à l'atteinte du véritable but de la vie est sans valeur. Si la vie humaine a un but précis, il convient de tout faire pour l'atteindre car la mort peut survenir à n'importe quel moment. Le Srimad Bhagavatam 2.1.1 nous donne l'exemple de
En fait, c'est Maharaj Parikshit.
Maharaj Parikshit.
Ouais.
Shuka Uvacha Varyan Eshyate Prashnyaha Kritoloka Itam Nripa Atmavit Samataha Pumsham Shrotavyadishu Yaha Paraha.
OK. Là, on fait une petite correction. Le point, le H avec un point en dessous, quand c'est à la fin de la phrase, si on peut dire, c'est AA.
OK.
Mais si c'est pas, si c'est dans le milieu, en quelque part de la ligne, ça devient comme si c'était un A et un K. Alors, c'est pas prononcé comme un K, mais mettons comme ici, là. Atmavit
OK.
Samatak Pungsang
Atmavit.
Shrotavyadishu Yakparaha. Comme ça. Voilà.
OK. Merci, bravo.
Derrière.
Sri Shuka Shuka Uvacha Sri Shukadeva Goswami said
Ah bon,
Varyam
ça a oublié d'être
glorious
traduit. OK,
Eshi.
je vais le mettre en français comme ça, là. Alors, je vais le dire, OK? Alors,
Yes.
Varian glorieux, Eshaha, cela, Te, ta, Prashnaha, question, Kritaha, faite par toi, Lokayitam, bénéfique pour tous les hommes, Nripa, ô roi, Atmavit, un transcendantaliste, Samataha, approuvé, Pungsam, de tous les hommes, Shrotavya Adishu, dans toutes sortes de sujets d'écoute, Yaha, quel est Paraha, le suprême? Continue, s'il vous plaît.
Sri Shukadeva Goswami dit, combien glorieuse ta question, ô roi, car elle sert le bien de tous les hommes. La réponse à une telle question, qu'approuvent tous les spiritualistes, représente certes ce qu'il y a de plus sublime. Teneur et portée.
Sublime
Cette
à
question,
entendre.
sublime à entendre, pardon. Alors je reprends le. Sri Shukadeva Goswami dit, combien glorieuse ta question, ô roi, car elle sert le bien de tous les hommes. La réponse à une telle question, qu'approuvent tous les spiritualistes, représente certes ce qu'il y a de plus sublime à entendre. Teneur et portée. Cette question revêt en elle-même tant d'importance qu'elle représente ce qu'il y a de plus sublime à entendre. En effet, un tel échange de questions et de réponses permet d'atteindre le plus haut sommet de la perfection. Sri Krishna étant la personne suprême et originelle, toute question qui se rapporte à lui acquiert par là même une qualité originelle et parfaite. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigne que celui qui adopte le service d'amour sublime offert à Krishna accède à la plus haute perfection de l'existence. Et c'est parce que les questions et réponses axées sur Krishna nous donnent de rejoindre ce niveau purement spirituel que les questions de Maharaj Parikshit sont si glorieuses. Celui-ci voulait diriger vers Krishna toutes ses pensées, ce que permet la simple écoute du récit lié aux actes sans pareil de Krishna. La Bhagavad Gita stipule à cet égard que celui qui comprend le caractère absolu de l'avènement, de la disparition et des actes de Krishna retourne sans attendre avec le Seigneur dans sa demeure originelle et n'a plus jamais à connaître cette existence douloureuse conditionnée par la matière. Il est donc fort bénéfique d'écouter sans cesse les propos qui touchent à Krishna. Aussi, Maharaj Parikshit prie Shukadev Goswami de narrer pour lui les actes de Krishna afin qu'il puisse porter ses pensées vers le Seigneur. Puisque aucune différence ne sépare Krishna de ses actes, aussi longtemps que l'être s'occupe à écouter ses divertissements absolus, il transcende le conditionnement de l'existence dans la matière. Les propos qui touchent à Sri Krishna sont si propices qu'ils purifient celui qui s'en enquiert, celui qui les narre, de même que celui qui les écoute. On les compare aux eaux du Gange, lesquelles jaillissent de l'orteil de Sri Krishna et purifie partout où elle coule, la terre et ceux qui s'y baignent. Pareillement, la Krishna Katha, les propos à la gloire de Krishna, connaissent une telle pureté que là où ils résonnent, ils sanctifient le lieu, celui qui s'en enquiert, le narrateur, les auditeurs, bref, tout ce qui s'y rattache.
Que des questions, des commentaires?
C'est vrai que quand on goûte aux récits et aux actes et aux divertissements de Krishna, on a du mal après à prendre de l'intérêt pour d'autres choses. Même si on se retrouve dans des discussions, dans des échanges, mais en fait, on trouve toujours qu'il manque quelque chose. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Je trouve toujours qu'il manque quelque chose
Ouais,
dans les discussions du monde, en fait.
c'est tout à fait normal. C'est en plein ça qui se passe. Une fois qu'on a goûté à la Krishna Katha, le reste est appelé par le Seigneur Chaitanya. Un autre mot, un autre genre de Katha, c'est appelé Gramya Katha. Alors, il y a Krishna Katha et il y a Gramya Katha. Le Gramya, ça veut dire des ordures. Ça veut dire que c'est pas bon, c'est bon, c'est semblable à des ordures, si on peut dire. Alors, mais quand même, néanmoins, faut pas tout condamner d'emblée. S'il n'y a pas Krishna dans les sujets, parce que ça fait partie de la vie matérielle, qu'il y a un certain minimum essentiel de sujets qu'on doit connaître, qu'on doit parler de. Comme par exemple, si le voisin d'à côté nous dit, il y a un tremblement de terre qui s'en vient, là, faut faire de quoi? Ben ça, on peut pas l'ignorer. On peut pas dire, ah, ça, c'est juste matériel, moi, j'en tiens pas compte, là. Non, non, ça marche pas comme ça. Alors, c'est comme dans le Ishopanishad, c'est expliqué. Celui qui est capable de cultiver côte à côte, en parallèle, et la connaissance matérielle et la connaissance spirituelle, peut justement atteindre à l'immortalité. Alors, il y a une part des choses à faire, qui est simplement le gros bon sens. Comme Prabhupada dit, 50% de la conscience de Krishna, c'est le gros bon sens. Alors, c'est correct comme ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? OK. On continue. Ananda, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr.
10.6.
10.6. Nombreuses les sottises préférées par l'homme, nombreuses les sottises proférées par l'homme et nombreux les ouvrages inutiles. Or, il s'agit là d'efforts portant tous à satisfaire les sollicitations de la parole. Shrota vyadini Rajendra ni nrinam santi sahasrasa. Shrota vyadini des sujets d'écoute, sahasrasa par milliers, phénomène généralisé chez tous ceux qui ne sont pas conscients de la vérité absolue. Quiconque est conscient de la vérité absolue n'aura aucun goût pour les sujets à proprement dit hors sujet. Il s'avère que la vérité absolue est la personne infiniment fascinante, Shri Krishna. Quiconque a savouré le nectar de la poussière de ses pieds pareils au lotus n'a plus d'attirance pour autre chose. On trouve le verset suivant dans la Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.53. Neisyam matistavad urukra mangrim sprisati anartha pagamo yad artha mai yasam padarajo bishyekam niksh kinsha shananam na vrinita yavat na pa. Eshyam, ceux qui sont attachés à la vie domestique. Matihi, l'intérêt. Tavat, aussi longtemps. Urukrama, anigrim, les pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême, à qui l'on attribue des activités peu communes. Sprisati, touche. Anartha, des choses indésirables. Apagama, vaincre. Yat, de ce qui. Artha, résultat. Mahi Yasam, des grandes personnalités des dévots. Pada Raja, de la poussière des pieds, pareil au lotus. Pardon. Abhishekam, aspersion sur la tête. Nishi Kinshanam, ceux qui sont
Attends,
complètement.
on corrige
J'ai
un
du
petit peu,
mal.
là.
Oui, ce mot, j'ai mal.
Ni, il n'y a pas de nishi, c'est
Ah,
nish.
niche.
Kinchananam.
Niche kinshananam, merci, bravo. Qui sont complètement détachés des possessions matérielles. Na vrinita ne fait rien. Yavat tant que. À moins que la société humaine n'accepte la poussière des pieds pareils au lotus des grands mahatmas, des dévots qui n'ont rien à voir avec les possessions matérielles, l'humanité ne peut pas tourner son attention vers les pieds pareils au lotus de Krishna. Ces pieds pareils au lotus vainquent toutes les conditions indésirables et misérables de la vie matérielle. Teneur et portée. Ce verset figure dans le Srimad Bhagavatam 7.5.32. Lorsque le grand sage Narada donnait des instructions à Maharaj Yudhishthira, il raconta les activités de Prahlad Maharaj. Ce verset a été prononcé par Prahlad Maharaj à l'intention de son père, Hiranyakashipu, le roi des démons. Prahlad Maharaj avait informé son père des 9 processus fondamentaux du Bhakti Yoga, expliquant que quiconque adopte ces processus doit être considéré comme un érudit hautement savant. Hiranyakashipu, cependant, n'aimait pas que son fils parle du service de dévotion. Il appela donc immédiatement le professeur de Prahlad, Sanda. Celui-ci lui expliqua qu'il n'avait pas enseigné le service de dévotion à Prahlad, mais que le jeune garçon était naturellement porté vers cette voie. À ce moment-là, Hiranyakashipu entra dans une grande colère et demanda à Prahlad pourquoi il était devenu un Vaishnava. En réponse à cette question, Prahlad Maharaj récita ce verset selon lequel on ne peut devenir un dévot du Seigneur sans recevoir la miséricorde et les bénédictions d'un autre dévot. Que font les Mahatmas? Ils chantent, propagent continuellement les gloires de Krishna. Leur présence commande le respect. En leur présence, vaut mieux se taire et écouter. Laisser parler le maître et écouter. C'est exactement ce qui se passait lorsque Srila Prabhupada était parmi nous à donner des conférences, des entrevues. Il commandait le respect. Ce propos était hors du commun. Aucune banalité, que la pure Krishna Katha. Tout le monde en était simplement ravi. Enfin, quelqu'un avait su s'adresser en plein à leur âme. un signe d'une fortune inouïe. J'en reçus une fois dans une vie. Une telle bonne fortune a pouvoir de complètement renverser la vie conditionnée de quiconque a su l'apprécier moindrement à sa juste valeur. La puissance d'un pur dévot a pouvoir sans contredit d'attirer à ses pieds, pareil au lotus, d'autres dévots sincères dans l'âme par la grâce indicible de Krishna.
Jai.
Jai.
Merci beaucoup. Jai. Om Gyanatmanandasya Gurave. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a plusieurs choses intéressantes comme d'habitude. Mais si on va à la page 113, la ligne 20, c'est en fait la première ligne des commentaires. Alors, c'est dit ici, phénomène généralisé chez tous ceux qui ne sont pas conscients de la vérité absolue. Alors, comment peut-on expliquer qu'il y a une différence entre ceux qui ne sont pas conscients de la vérité absolue et ceux qui sont conscients de la vérité absolue? Alors là, ici, c'est expliqué par après, la ligne d'après. Quiconque est conscient de la vérité absolue n'aura aucun goût pour les sujets à proprement dit hors sujet. Il s'avère que la vérité absolue est la personne infiniment fascinante, Sri Krishna. Quiconque a savouré le nectar de la poussière de ses pieds pareils au lotus n'a plus d'attirance pour autre chose. On trouve le verset suivant dans le Chaitanya Charitamrita, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, justement, je repose la question, entre quelqu'un qui est conscient de la vérité absolue et quelqu'un qui ne l'est pas? Quel est si on peut dire, le facteur qui contribue à faire la différence? On va donner un autre commentaire. À savoir, depuis que vous connaissez la conscience de Krishna, êtes-vous déjà allé à l'église écouter une messe?
Oui.
Ananda?
Non, pas moi. J'ai pas eu l'occasion.
OK. Mais t'es pas opposé à y aller, par exemple.
Non, 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 j'ai eu envie d'y aller, mais c'est juste que ça a pas donné.
OK.
Moi, juste à titre perso, j'accompagne mon père, en fait, quand je vais en France. Et il va le samedi, ça nous fait un petit moment ensemble et ça me permet après moi de pouvoir lui parler de Dieu qui est dans son cœur, de Dieu qui le quitte jamais, de Dieu qui est toujours avec lui. Pour essayer de garder un lien justement dans nos conversations autour de Dieu, puisque il va à la messe le samedi quand il y a la messe dans le village. Donc
OK.
voilà.
Mais quand vous êtes là, vous avez des oreilles pour écouter, mais vous écoutez de quelle façon?
Ben, comme un dévot de Krishna, en fait.
Oui.
Attentif.
Attentif, oui. Respectueux, oui.
Respectueux, oui.
Même si c'est pas, disons, Krishna directement, mais c'est Krishna aussi. Mais
Exact.
disons, le nom de Krishna n'est pas évoqué directement, mais ça a trait à Krishna, parce que c'est lié à Dieu, la personne suprême. Alors, qu'est-ce qui fait, on revient encore à la question, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est conscient de la vérité absolue et un autre qui ne l'est pas? Quel est le facteur qui fait la différence?
En fait, je sais pas, c'est
Avoir
à l'air
reçu
d'être
la
de
miséricorde.
Oui.
D'être
Disons
conscient qu'on
que,
est l'âme et pas le corps. D'être conscient qu'on est l'âme et pas le corps.
il y a ça. Mais disons que, il y a 500 personnes dans l'église. Puis il y a un ou deux, trois dévots de Krishna ou dévotes de Krishna qui sont là. Et ça sonne pas pareil dans les oreilles des autres. Disons là, peut-être, je mets un peu beaucoup de monde dans le même panier, là. Mais, toujours est-il que les gens vont à l'église, puis ils ne seront pas portés nécessairement. Je ne dis pas qu'ils ne le seront pas, mais pas nécessairement portés à faire de Dieu le sujet de leur conversation, que ce soit à l'église, en dehors de l'église. Pour une grande majorité, c'est comme ça. Mais pour un dévot ou une dévote de Krishna qui était à l'église, il y a matière à se rappeler qu'est-ce qui a été dit comme message, parce que c'est intéressant, c'est pertinent, et c'est la parole de Dieu aussi. Alors, Dieu donne aux hommes, selon temps et circonstances, des instructions. Alors, on peut apprendre des différentes religions, puis lier ça à un entendement conscient de Krishna. Il n'y a pas de trouble, là. Comme par exemple, tu ne tueras point. Ça, c'est un des commandements fondamentaux du christianisme ou du judaïsme. Ben, ça va avec la culture védique. Parce que tu ne tueras point, c'est ce qui est dit. Et dans les Védas, il y a ce qu'on appelle un aphorisme qui dit Mahim Syat Sarvabhutani. Mahim Syat Sarvabhutani. Sarvabhutani, c'est facile disons, à comprendre. Sarva, ça veut dire tout. Et Bhutani, ça veut dire les êtres vivants. Mahim Syat, ça veut dire ne commets pas de violence envers aucun être vivant. Ça, c'est dans les Védas. Alors, tu ne tueras point, c'est la même chose. C'est le même message. C'est le même résultat qui est espéré en bout de ligne. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui l'entend, qui entend bien, et un autre qui entend, oui, ça résonne dans ses oreilles, mais ça rentre pas loin, entre les deux oreilles. Donc, le cœur, ça a l'air que ça rentre pas là. Qu'est-ce qui fait la différence? Et comme Jésus disait, il n'y a pas de pire sourd que c'est une personne qui veut pas entendre. Alors, qu'est-ce qui fait la différence?
La foi, l'amour pour Dieu.
C'est l'amour pour Dieu. C'est ça qui fait la différence. Alors, par amour pour Dieu, quelqu'un qui a développé un peu d'amour, pas obligé que ça soit la perfection à 100%, là, mais qui a développé un certain attachement pour Dieu, un certain goût pour l'écoute de ce qui a trait à Dieu. Lui, il va entendre un message très favorablement, puis il va se dire, ah, ça c'est bon. Ça c'est vraiment bon. Et puis je devrais, disons, autant que possible me souvenir. Parce que ça, c'est le résultat de l'écoute aussi. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Shravanam veut dire écouter. Kirtanam veut dire parler ou décrire ou chanter. Et Smaranam veut dire le souvenir, se souvenir de. Alors, ça, c'est le processus de base de la conscience de Krishna. Avoir une réceptivité au message. Et le message doit être convié pas par n'importe qui, par ce qu'on a lu ici, là, par les Mahatmas. Les Mahatmas, ça veut dire, c'est des âmes réalisées, c'est des purs dévots de Krishna. Et Mahatma veut dire, le mot lui-même veut dire des grandes âmes les âmes élevées spirituellement parlant. Alors ici, le verset du Srimad Bhagavatam dit, et là, c'est vraiment toute la société humaine qui est interpellée. On s'est dit ici, à moins que la société humaine n'accepte la poussière des pieds palais de lotus des grands mahatmas, des dévots qui n'ont rien à voir avec les possessions matérielles, l'humanité ne peut pas tourner son attention vers les pieds palais lotus de Krishna. Ces pieds palais de lotus vainquent toutes les conditions indésirables et misérables de la vie matérielle. Alors, on pose le même genre de question. Qu'est-ce qui fait la différence entre les mahatmas et ceux qui ne sont pas mahatmas? Par rapport à ce qu'on vient de lire, là, la réponse est dedans, là.
Qui sont sans cesse tournés vers les pieds pareils au lotus de Sri Krishna.
Oui, mais avant ça.
Ils sont complètement détachés des possessions matérielles.
C'est ça. On s'est dit ici, des mahatmas, des dévots qui n'ont rien à voir avec les possessions matérielles. Mais ça, là, on pose la question, pourquoi? Pourquoi ils n'ont rien à voir avec les possessions matérielles? La réponse est donnée aussi. Dans ce qu'on a lu. Parce qu'ils ont Krishna. C'est ça l'explication, là. Parce qu'ils ont Krishna. Alors, c'est pas qu'ils n'ont rien. Les impersonnalistes, eux, ils essaient de se détacher de tout. Mais ils ont pas Krishna vraiment. Alors, tôt ou tard, ils vont revenir à des activités matérielles comme faire de la charité, ouvrir des écoles, ouvrir des hôpitaux, etc. Mais ils sont pas, disons, libérés de l'emprise de, disons, des activités matérielles ou de l'énergie matérielle. Alors, les dévots de Krishna, les grands dévots, et là, c'est dit ici, à moins que la société humaine n'accepte la poussière des pieds palais de lotus des grands mahatmas, les dévots qui n'ont rien à voir avec les possessions matérielles. Alors, les grands dévots qui n'ont rien à voir avec les possessions matérielles, c'est tout à fait le contraire de ce que les matérialistes font et ambitionnent d'avoir. C'est des possessions matérielles. Alors, les mahatmas, ils n'ont rien à voir avec ça. Parce qu'ils ont Krishna, ils sont conscients de Krishna. Et puis, qu'est-ce que fait Krishna? Par égard à ces mahatmas-là. Qu'est-ce que Krishna fait par rapport aux mahatmas? C'est dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 22. Krishna dit, pour les dévots qui l'adorent constamment, avec amour et dévotion, Krishna dit, je préserve ce qu'ils ont. Et je pourvois à leurs besoins. Je conserve qu'est-ce qu'ils ont. Je préserve ce qu'ils ont. Alors, Krishna veille sur les dévots. Alors, les dévots ont confiance en Krishna, s'abandonnent à Krishna, et c'est ça leur vie par laquelle ils ne connaissent pas d'anxiété, les dévots. Il n'y a pas d'anxiété à avoir. Alors, les matérialistes, eux, sont dans un autre niveau. Alors, ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Et puis, s'ils ont quelque chose, qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Ils veulent encore une autre chose, et toujours comme ça.
Oui. Parfait. Mais une autre chose qui sont pris avec aussi. C'est qu'ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont déjà. Mais un dévot de Krishna, sa mentalité, c'est ce que j'ai, c'est la grâce de Krishna. Puis, par rapport à ce que j'ai, si Krishna veut l'enlever, c'est aussi la grâce de Krishna. C'est une mentalité qui n'a pas de souci encore de garder, conserver, défendre. Toutes les guerres, c'est ça, pratiquement parlant. Tous les conflits entre les êtres humains, ça a beaucoup à trait. Un veut me prendre ci, ou j'ai peur qu'on me prenne ça. Anyway, trois petits points d'exclamation. C'est quelque chose. Mais la vie spirituelle, ces choses-là brillent par leur absence. Alors, c'est dit ici, ses pieds par la lotus vainquent toutes les conditions indésirables et misérables de la vie matérielle. Alors, c'est assez clair. Et c'est extra. La vie de dévot, là, il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a pas d'équivalent au niveau matériel. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bon, on va continuer. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. OK. Alors, on saute au module 11. Virginie, s'il vous plaît.
Faire de Krishna l'objet de nos paroles. Pour vaincre ces tendances, il nous faut faire de Krishna l'objet de nos paroles. On lit dans le Srimad Bhagavatam 1.5.10. Nayad vachas sitrapadam arer yasho jagat pavitam pagrinita karishit tad vashyasam titram ushanti manasa nayatra amsa niralmanti uzik kshaya. Les mots qui point ne dépeignent les gloires du Seigneur, lesquels suffisent à rendre pure l'atmosphère des trois mondes, ne valent guère plus pour les saints hommes qu'un lieu de pèlerinage pour les corbeaux. Les êtres parfaitement accomplis, parce qu'ils habitent le monde spirituel, n'y trouvent aucun plaisir. Tadvag, Vishargo, Janataga, Viplavo, Yashmin Prati Shlokam Abad Dalvati Api, Namani Anantashya Yasho Nikitani Yat, Srinivanti Gayanti Grinyanti Sadavaha. D'autre part, les ouvrages où l'on trouve abondamment décrites les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême sont d'inspiration purement spirituelle, et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation de révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Même si la lettre de ces écrits comporte des irrégularités, ils demeurent écoutés, chantés et accueillis par tous les hommes purs qu'anime une profonde intégrité. Srimad Bhagavatam 1.5.11. En conclusion, nous ne pourrons éviter les vains et ineptes propos à moins de parler du service de dévotion offert au Seigneur suprême. Ainsi devrions-nous toujours nous efforcer d'utiliser la parole dans le seul but de devenir conscient de Krishna.
Ouais.
11.1. Pour vaincre ces tendances, il nous faut faire de Krishna l'objet de nos paroles. Le module 10 se terminait ainsi. Nombreuses les inepties proférées par l'homme et nombreux les vains ouvrages. Or, il s'agit là d'autant de fruits, d'efforts portant à satisfaire les tentations du Verbe. Pour pouvoir vaincre la manie des inepties et des vains ouvrages, il nous faut faire de Krishna l'objet de nos paroles. Il est certain que si nos paroles ne sont concentrées que sur Krishna, des écrits de notre part le seront automatiquement. Nos paroles sont le reflet de notre conscience. Si notre conscience n'est pas disciplinée pour cause d'être consciente de Krishna, nos paroles ne le seront pas non plus. La conscience de Krishna est un choix délibéré. Et pour exercer ce choix, un esprit éveillé capable de distinguer continuellement entre ce qui est acceptable ou non est nécessaire. Pour un bhakta, ceci devient une seconde nature. La pratique du chant répété des saints noms qu'on appelle japa y est pour quelque chose. Le japa contribue grandement à la concentration du mental sur Krishna. Dans le cas contraire, un japa négligé ou déconcentré contribue à l'arrivée envahissante des inepties du monde matériel.
Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Alors, oui, c'est pour ça que c'est très important, en fait, si on veut vraiment pouvoir échanger correctement, avoir les échanges avec les dévots, la proximité d'échanger avec les dévots, parce que c'est très rare sinon de pouvoir vraiment parler de Krishna si on n'échange pas avec des dévots, en fait.
Ouais. Et qu'est-ce qui rend intéressant les conversations de dévot à dévot? Un facteur qui rend intéressant ces conversations-là. En fait, c'est quoi le principe fondamental des conversations entre dévots?
Elles ont tout attrait à Krishna.
Oui, ça c'est correct. Ça c'est le contenu. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Ça se pose sous forme de questions-réponses, en fait.
Oui, ça c'est bon aussi. Mais qu'est-ce qui est sous-entendu dans cet échange de questions-réponses? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant?
Parce que c'est basé
Autant
sur la...
pour la personne qui parle, autant pour la personne qui écoute. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les interlocuteurs, si on peut dire?
Parce qu'en fait, c'est à travers la connaissance des écritures que ça c'est. Donc c'est pas de la spéculation. C'est vraiment issu des écritures, non?
Oui, mais les impersonnalistes aussi parlent entre eux autres. Ils vont citer des écritures, d'accord, ils vont les interpréter à tort et à travers, là, d'une
Ouais, c'est
façon
vrai.
déviée.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui fait, disons, que c'est agréable de parler de dévot à dévot?
Parce qu'il y a du respect.
Et du respect. Plus que le respect, qu'est-ce qu'il y a pour le tout?
Mais il y a le service.
Oui, et avant le service, il y a quoi? Pour arriver au service, ça prend quoi?
L'association.
Oui, mais pour s'associer, ça prend quoi? Quand on dit on s'associe, là, vraiment, là, ça sous-entend quoi? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Qu'est-ce qui fait tout ça, là, de dévot à dévot? Parce que tu peux avoir deux dévots qui se parlent, mais ils s'écoutent jamais. Ça, c'est genre, là, quel genre de dévot que c'est? Ben, on peut se poser la question, là. Mais, dévots qui sont capables de se parler et de se répondre, il y a quelque chose entre les deux qui fait que ça marche. Là, je vais donner
J'ai
la
envie de
réponse.
dire une hiérarchie ou
Non, les
non?
hiérarchistes,
Non, je non, c'est ça, c'est
on
juste.
s'en fout de la hiérarchie, c'est
Non,
pas.
c'est ça.
Oui,
Je suis à court d'idées.
il y a la hiérarchie, mais c'est pas si important que ça.
Je suis à court d'idées, Prabhu. Donne-nous la réponse.
La réponse, c'est la réceptivité.
Ah ben,
Hein?
eh oui.
C'est le
Merci.
facteur de réceptivité. Alors, si tu as deux personnes qui se parlent, mais il n'y a pas de réceptivité, Et quel est le contraire de la réceptivité? Ça, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita aussi.
L'inattention.
Réfractaire.
Ouais, réfractaire, ça tourne autour du pot. Une attitude de défi. Alors, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34, il dit, essaie d'apprendre la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi de lui de façon soumise et rends-lui service, car l'âme réalisée peut te donner le savoir parce qu'elle a vu la vérité. Alors, il y a une attitude de service, une attitude de réceptivité aussi. C'est ça qui fait la beauté des échanges entre dévots. Alors, comme on vient de dire là, oui, c'est sûr, il peut y avoir une hiérarchie entre dévots. Alors, comme par exemple, un dévot va considérer un dévot qui a plus d'expérience que lui, il va avoir du respect élémentaire, pour ne pas dire beaucoup de respect, et il va changer son attitude. Dans le sens que par rapport à un dévot qui est plus expérimenté, il va avoir une attitude plus, on peut dire ça, on peut dire plus soumise, oui, mais il y a une autre façon de le dire aussi. Bon, une attitude où il n'y a pas de défi, mais au contraire, c'est tu veux m'en donner? Amen, ça, je vais en prendre.
Réceptivité.
Une réceptivité.
L'acceptabilité.
Oui, respectabilité, mais ça prend une réceptivité.
Ouais,
Il faut qu'un
réceptivité.
dévot ait ça pratiquement dans l'âme. Qui peut m'instruire? Qui peut me donner des bonnes leçons pour favoriser le développement de ma conscience de Krishna? Ça, c'est l'attitude à avoir. C'est pour, en fait, n'importe quel spiritualiste. Tout comme dernièrement, j'écoutais, là, la semaine dernière, le Vendredi Saint. À chaque année, j'écoute des bouts de ce film-là, La vie de Jésus. Alors, à un moment donné, il y a Ponce Pilate qui demande à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais son attitude n'est pas une attitude soumise, c'est une attitude de défi. C'est comme, par exemple, si tu passes en cour, puis comment on appelle ça, là? T'es à la cour, puis l'avocat de la partie adverse qui s'en vient de poser des questions, là. C'est le contre-interrogatoire. Ah, il s'en vient de voir, puis mettons qu'il s'en vient de voir, puis il dit, il s'en vient comme ça, là. Vous vous dites un dévot de Krishna. Quelle est la philosophie de Krishna? Pensez-vous que le dévot va être porté à lui expliquer?
Non, parce que il arrive avec de l'agression, il n'est pas dans l'humilité à demander, pouvez-vous m'expliquer ce que vous concevez comme
Dans
étant,
l'échange,
voilà,
exact.
il a pas du tout d'humilité, au contraire, c'est une arme, en fait, il est
C'est
armé de sa
ça.
mauvaise.
Ça ne marche pas. Alors, les conversations entre dévots, c'est ça qu'il y a de beau et de sublime, en fait. C'est que c'est pas comme dans le niveau matériel où il y a besoin de défier pour montrer qui on est, combien bon on est. Si on a quelque chose à prouver, là, ça c'est une autre histoire aussi. Mais c'est une attitude de respect et d'ouverture d'esprit pour apprendre. Et en fait, un dévot peut apprendre de n'importe qui et de n'importe quelle entité vivante, là. Il y a des histoires comme
Sans
ça.
faire.
C'est l'attitude d'un dévot. L'attitude joue pour beaucoup dans la vie d'un dévot. Et on peut résumer l'attitude d'un dévot par les paroles du Seigneur Chaitanya. Seigneur Chaitanya qui disait, mais qui suis-je C'est une bonne question, ça. Beaucoup de gens peuvent se poser la question, qui suis-je? Ou quelqu'un peut vous défier et dire, mais qui êtes-vous? Mais pour un dévot, la réponse est dans son cœur depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et il ne doit pas avoir, disons, d'ambivalence sur quant à la réponse. Qui suis-je? À chaque pas, un dévot, en fait, est obligé de répondre à la question, qui suis-je? Alors, qu'est-ce que va répondre un dévot?
Je suis une âme distincte, fragment du Seigneur Shri Krishna, à son
D'accord.
service.
Et à part de ça? Par rapport aux autres?
Par rapport aux autres, c'est-à-dire.
Je suis le serviteur du serviteur du
Oui, voilà.
serviteur du
C'est
serviteur de
exactement ça que
Krishna.
j'allais dire. Voilà.
Alors, ça, c'est la relation d'un dévot avec tous les êtres vivants. L'attitude de service, rendre service à tous les êtres vivants. Alors, des fois, c'est facile, des fois, c'est moins facile, des fois, c'est pas évident. Des fois, un dévot voudrait servir, mais les circonstances ne lui permettent pas de rendre service comme il voudrait. Alors, c'est... Mais dans son cœur, cette définition de qui je suis et qu'est-ce que je devrais faire, ça devrait être clair comme du cristal, là. Je suis serviteur, serviteur. C'est le Seigneur Chaitanya qui a enseigné ça. Qui suis-je? Je suis le serviteur, du serviteur, du serviteur, du maître. Et du maître des gopis. Et le maître des gopis, c'est un autre nom de Krishna. En fait, c'est Gopinath, le nom de Krishna, le maître des gopis, le dieu des gopis, l'objet adoré des gopis, Gopinath. Alors, je suis le serviteur du serviteur du serviteur du maître qui est Krishna. Qui est Gopinath. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ouais, puis ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au cours pas précédent, mais le cours du 25 mars, où depuis je me pose constamment la question, en quoi est-ce que cela me concerne en tant qu'âme distincte? Et c'est vrai que c'est très judicieux, ça m'a donné beaucoup de, voilà, souvent, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi ça me concerne? Et là, hop, un peu de recul et ça permet d'avoir un meilleur jugement, en fait.
Oui, parce que des fois, on est mis dans des situations où on est entouré, en fait, pas juste des fois, c'est à l'année longue, pratiquement parlant, là. Si on vit pas dans un temple, on est entouré de personnes qui sont pas nécessairement conscientes de Krishna. Alors, elles ont une façon de voir, mais nous aussi, on a une façon de voir. Et on ne se... On ne devrait pas être influencé par, mais c'est pas si difficile que ça non plus, parce que la conscience de Krishna, ça se passe au niveau du cœur, du dévot, de la dévote. C'est dans le cœur que ça se passe. Alors, les choses matérielles, pas dans le cœur nécessairement. Ça peut être des impuretés dans le cœur, mais ça n'a pas trait vraiment l'être qui est le dévot de Krishna ou dévote de Krishna qui est dans le cœur en tant qu'âme spirituelle. Ça n'a pas trait à ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Ananda, s'il vous plaît.
Oui. 11.2. On lit dans le Srimad Bhagavatam 1.5.10-11.
Okay.
Naï.
Saute le sanskrit.
Les mots qui point ne dépeignent les gloires du Seigneur, lesquels suffisent à rendre pure l'atmosphère des trois mondes, ne valent guère plus pour les saints hommes qu'un lieu de pèlerinage pour les corbeaux. Les êtres parfaitement accomplis, parce qu'ils habitent le monde spirituel, n'y trouvent aucun plaisir. D'autre part, les ouvrages où l'on trouve abondamment décrites les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême sont d'inspiration purement spirituelle, et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation de révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Même si la lettre de ces écrits comporte des irrégularités, ils demeurent écoutés, chantés et accueillis par tous les hommes purs qu'anime une profonde intégrité. Srimad Bhagavatam 1.5.11.
Ouais, je vais faire un petit commentaire vite, vite, quand. Ces deux versets-là, Prabhupada en était, disons, convaincu. Et c'est sur cette base de ces versets-là que Srila Prabhupada est venu en Amérique avec ses Srimad Bhagavatam qu'il avait publié en Inde, en sachant que ces traductions de ce premier chant du Bhagavatam n'étaient pas parfaites. Et en fait, il y avait bien des fautes dans ces livres-là, d'un point de vue anglais, parce que c'est écrit en anglais. Mais Prabhupada est venu pareil, puis c'est expliqué dans l'introduction ou la préface du Srimad Bhagavatam, justement, sur la base de ces versets-là, qui dit justement, il cite ces versets-là. Et il dit justement que sur cette base-là, il est confiant que les gens qui sont purs dans leur cœur, profondément honnêtes, vont accepter le message, vont trouver un intérêt dans le message. Alors voilà, on continue.
Nous reproduisons ci-dessous les teneurs et portées respectives des versets en question, à commencer par la première, Srimad Bhagavatam 1.5.10, teneur et portée. Le cygne et le corbeau n'ont pas même plumage. On compare les hommes de passion voués aux actes intéressés à des corbeaux, et les saints hommes parfaitement accomplis à des cygnes. Leur mentalité diffère totalement. Le corbeau cherche son plaisir là où s'accumulent les immondices, et de même celui qui, sous l'influence de la passion, s'engage dans l'action intéressée, cherche son plaisir dans le vin et les femmes, en des lieux où abondent les plaisirs des sens. Le cygne, lui, ne trouve aucun plaisir chez les rendez-vous croissants, réunions, conférences ou autres des corbeaux. On les retrouve plutôt là où règne une atmosphère de paix naturelle, près des eaux transparentes, embellies de fleurs de lotus, dont les couleurs variées relèvent la beauté du paysage. Ainsi se distinguent ces deux oiseaux. La nature a doté les diverses espèces vivantes de mentalités diverses, et il n'est pas possible de les ranger toutes à un même niveau. De même, il existe divers ordres décrits destinés à divers hommes, toujours selon leur mentalité. Ainsi, les ouvrages appréciés des hommes pareils aux corbeaux sont ceux où abondent les immondices des grands thèmes sensuels. Ils sont généralement caractérisés par une suite de propos temporels liés au corps grossier ou au mental subtil, de même que par des étalages descriptifs au langage fleuri, farci de comparaisons et de métaphores matérielles. Mais ils ne rendent pas gloire au Seigneur. Or, quel qu'en soit le sujet, toute prose ou poésie composée en termes pareils, c'est un ornement sur un cadavre. Les spiritualistes élevés, semblables aux cygnes, n'attachent aucun intérêt à ces livres sans vie, qui font le délice des hommes morts à la vie spirituelle. Ces écrits de la passion et de l'ignorance se présentent sous toutes sortes d'étiquettes, mais ils ne peuvent en rien étancher la soif spirituelle de l'homme. Voici pourquoi les eaux spiritualistes, pareilles aux cygnes, n'ont que faire, pardon. Ces hommes aux pensées spirituelles élevées sont également appelés manasa. car ils se maintiennent toujours dans les cadres du service volontaire sublime que l'on offre au Seigneur. Ceux qui ne laissent aucune place aux actions intéressées, celles qui motivent les plaisirs des sens matériels ou les spéculations subtiles du mental égocentrique, également matériel. Tant qu'il reste tout entier plongé dans la recherche de plaisirs matériels toujours accrus, écrivains, savants, poètes, profanes, théoriciens et politiciens ne sont que des jouets, ne sont que jouets dans les mains de l'énergie matérielle. Ils cherchent leur bonheur en des endroits où sont déversés 1000 sujets impurs. Selon Swami Sridhara, merci, Sridhar, leur plaisir est comparable à celui des chasseurs de prostituées. Quant aux écrits décrivant les gloires du Seigneur, ils font le délice des Paramahamsa qui ont saisi l'essence de la vie humaine. Et la deuxième teneur est portée, Srimad Bhagavatam 1.5.11. Teneur est portée.
Ah, 2 minutes. Il manque quelque chose en vrai. Ah, ok. J'ai sauté une page ici dans mon cahier. Ok, excusez.
Pas de souci.
Ok. Est-ce
Et la
que
deuxième... pardon.
on va laisser faire pour l'autre, là? Parce qu'on
OK.
n'aura pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur qu'est-ce qui a été lu? Ah, ça, c'est intéressant. Prabhupada dit qu'on peut apprendre beaucoup de choses des animaux ou des êtres vivants dans le monde matériel. Et là, Prabhupada parle de la différence entre les corbeaux et les cygnes. Ah, c'est très, très bien expliqué par Prabhupada, la différence entre les deux. Et Prabhupada aussi, disons, il explique aussi comment catégoriser les personnes qui sont qui ne sont pas dans la catégorie des cygnes. Alors, il parle qu'ils sont dans la passion et l'ignorance. Ça se dit ici, le corbeau cherche son plaisir là où s'accumulent les immondices, et de même, celui qui, sous l'influence de la passion, s'engage dans l'action intéressée, cherche son plaisir dans le vin et les femmes, en des lieux où abondent les plaisirs des sens. Le cygne, lui, ne trouve aucun plaisir dans les rendez-vous croassants, réunions, conférences ou autres des corbeaux. On les retrouve plutôt là où règne une atmosphère de paix naturelle, près des eaux transparentes embellies de fleurs de lotus, dont les couleurs variées relèvent la beauté du paysage. Ainsi se distinguent ces deux oiseaux. Alors, c'est des questions, des commentaires?
Non, mais c'est vrai qu'en observant les animaux, on arrive beaucoup à voir on perçoit des choses en fait. Parce que quand on observe des animaux, on se rend compte qu'ils fonctionnent entre guillemets comme des êtres vivants basiques, et c'est juste une histoire de mentalité, de développement de conscience. Mais dans les, comme on le dit souvent, l'humain qui consiste juste à se défendre, à se nourrir, à se reproduire, et qui dépasse pas tout ça, ben il n'est pas mieux qu'un animal, effectivement. Mais quand on observe les animaux, ça permet aussi de mieux appréhender le côté, je dirais, animal dans l'être humain qui n'a pas conscience de Dieu.
Oui. Et Prabhupada explique aussi que les hommes qui, disons, qui n'agissent que pour manger, dormir, se reproduire, se défendre, ils le font sans nécessairement, C'est là que c'est malheureux. Suivre les lois de la nature. Les animaux, eux, suivent les lois de la nature. C'est ça la différence entre les animaux et les êtres humains. C'est que l'être humain, lui, peut faire des excès et va en payer les conséquences, tandis que les animaux, non. Comme par exemple, les animaux ont une certaine période de l'année pour se reproduire. Mais les êtres humains, eux autres, ils tournent ça,
24.
soi-disant à leur avantage. Il n'y a pas de restriction. Ils voudraient qu'il n'y ait pas de restriction. Mais les lois de la nature sont là aussi. C'est que s'il y a des excès, ben, ils vont être obligés de payer pour. Il va avoir des conséquences. Et les conséquences viennent sous forme de maladies et sous forme de vieillesse très douloureuse, plus loin dans leur existence humaine. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors,
D'accord.
on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous remercie beaucoup
Merci beaucoup à
Merci
toi.
à toi,
À
Paul, de venir au cours. C'est toujours apprécié.
Merci
Merci,
beaucoup.
merci, merci.
Réciproque.
Oui.
C'est la
Excellent.
réciprocité.
Merci. Et alors, cette semaine, ben, Madame Ananda n'est pas venue.
Oh.
Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il doit avoir une
Ouais.
raison.
J'espère qu'il n'y a pas de souci. T'as la glace.
Ouais. Alors, c'est ça.
À mercredi prochain?
Oui, mercredi
Oui, c'est ça,
prochain, et
mercredi.
puis l'autre samedi, Chopin
Ouais.
Chat. Voilà.
Parfait. Allez, beau.
Avec le
Allez,
nouveau
couche tout
cahier.
partout.
Avec le nouveau cahier.
Oui, le nouveau cahier, est déjà en ligne.
Ah,
OK,
parfait. Eh ben, super. On va
Hare
aller le
Krishna.
télécharger,
Il est
alors.
déjà
Merci
en ligne.
beaucoup.
C'est,
C'est
vous allez voir,
super.
là, sur le cahier de cours. Numéro 15 est là. Il est déjà là, en format PDF.
Parfait.
Magnifique.
Ah,
On va le
merci beaucoup.
télécharger.
Merci beaucoup.
Hare Krishna.
Hare Krishna
Hare
Prabhu.
Krishna, allez, allez,
Bonne
bon.
semaine. Hare Krishna, Hare
Oui,
Bol.
bonne
Allez,
semaine. Allez, allez, bon.
allez, allez,
Jai.
bol.
Hare
Jai.
Krishna. Jai.
Hare Krishna.
Allez, bon.
Bol. Je n'étais pas là.